Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur l'offensive des FAMA, forces armées maliennes, en direction de Kidal. Le 2 octobre, un important convoi des FAMA s'est mis en mouvement en direction de cette ville stratégique du Nord, bastion de la rébellion Touareg. À suivre le reportage de notre correspondant Mohamed Danyuko, notre invité analysera les implications et les possibles issues de cette opération. Nous irons ensuite dans le centre du Mali, précisément à Koror, une ville qui a accueilli un nombre important de personnes déplacées. Ce sera pour évoquer la réinsertion socio-économique des femmes déplacées, un reportage de Tidiani Ouedraogo. Le fait marquant de la semaine, c'est le début ce mardi du retrait des soldats français du Niger, une opération exigée par les militaires au pouvoir à Niamey et annoncée fin septembre par le président français Emmanuel Macron. L'un de nos affiliés nous donnera les nouvelles fraîches des Puniamé. À découvrir enfin le festival Ma Ville en Peinture au Burkina Faso. Ce festival a pu se tenir la semaine dernière dans la capitale burkinabé en signe de résilience face à l'insécurité selon ses promoteurs. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est diffusée sur nos stations FM, sur nos stations partenaires, sur voaafrique.com et en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Depuis le début de ce mois, l'armée malienne, avec plus d'une centaine de véhicules armés et blindés, a quitté Gao pour se rendre à Kidal. Objectif, reprendre le contrôle de cette ville stratégique qu'elle a quittée depuis 2012. Comment analyser cette avancée vers Kidal et que pensent les ressortissants du Grand Nord de la recrudescence de la violence? Des éléments de réponse dans ce reportage de Mohamed Danyuko à Bamako.
Auteur du livre « Le Mali, des rébellions aux accords de paix », le docteur Ali Tunkara, chercheur et analyste des questions sécuritaires, explique les motivations de l'armée à reconquérir Kidal.
Si on regarde un peu cette ruée de l'armée malienne vers des localités qu'elle avait désertées depuis mai 2014, cette attitude s'inscrivait dans un élan de légitimation de l'élite militaire au pouvoir. Avoir à la tête d'un État des officiers supérieurs et au même moment que des pans entiers du territoire soient sous le contrôle des mouvements armés, qu'ils soient signataires de l'accord ou pas, ou qu'ils soient même à la limite terroristes, naturellement, c'est une sorte d'affront pour les militaires au pouvoir, d'où aujourd'hui, à la limite, cet engagement de l'armée irréversible à reconquérir l'ensemble des territoires, y compris des localités qui sont aujourd'hui sous l'emprise des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation.
L'accord de paix, dont la mise en œuvre a connu un grand retard depuis sa signature, risque de prendre un grand coup, pour ne pas dire disparaître avec cette phase.
Quand on s'inscrit dans la logique de cesser le feu de mai 2014 entre mouvements armés anciennement sécessionnistes et armées régulières du Mali, une lecture pourrait laisser entendre que les localités qui étaient sous le contrôle de l'armée régulière devaient rester comme telles, de même également celles qui étaient sous les mouvements armés devaient rester comme telles. De cette lecture, on peut être amené à dire que l'armée malienne n'a pas occupé les localités qui sont entre les mains des mouvements armés. Mais lorsqu'on s'inscrit toujours dans une autre lecture, on se rend compte qu'il avait été prévu dans ce même accord pour la paix et la réconciliation, qu'une fois acté, que tous les mouvements armés acceptent de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de désarmement et même de réinsertion. Or, ce chapitre, comme important de l'accord pour la paix et la réconciliation, n'a pas été acté par les mouvements armés.
Les ressortissants de la région de Taoudéni, lors d'une conférence, ont invité les partis à un cessez-le-feu et invité l'État à discuter avec les leaders des groupes terroristes.
Créer les conditions de reprise du dialogue de façon à pouvoir négocier un cessez-le-feu préalable à toute action en faveur des populations. Créer une condition, une coordination des juridis pour amorcer d'éventuelles négociations avec les groupes djihadistes en s'inspirant d'exemples vécus dans la sous-région.
Le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagui, a dit prendre bonne note des recommandations formulées et a promis, après étude de ces recommandations avec le reste du gouvernement, d'apporter les réponses qui s'imposent. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
C'était dans le reportage de Mohamed Danyoko depuis Bamako. Mohamed Danyoko qui est en ligne avec nous. Salut Mohamed.
Salut Oumfa, salut.
Alors, on parle tout d'abord de ce convoi des forces armées maliennes en direction de Kidal. Est-ce qu'on sait à l'heure qu'il est où se trouve ce convoi? Est-ce que ce convoi fait face à des résistances?
Écoutez, oui, le convoi a fait face à des résistances, notamment le 4, le 5 et le 6 pour la prise de Hanefis. Et depuis lors, un communiqué en tout cas a été fait par la direction de l'information de l'armée comme quoi Hanefis est désormais sous contrôle. Et la dernière information que nous avons sur ce convoi ou sinon sur la position de Kidal, c'est que ce 10 octobre, l'armée a de nouveau communiqué. Et n'est-ce pas, dans ce communiqué, il est dit que le bataillon des forces armées reconstituées, qui était composé des forces armées maliennes, des combattants de la plateforme et de la CEMA, qui était sous sécurité de l'aménagement et que la composante FAMA et de la plateforme ont pu occuper le camp qu'occupait l'aménagement. Actuellement, c'est l'information que nous...
Alors, dans votre reportage, Mohamed, vous évoquez une initiative des ressortissants de la région de Taoudéni qui milite pour la paix et une solution négociée. Qu'en est-il à ce jour? Que pensent-ils des risques d'un alignement pour les civils?
Oui, ces populations, en tout cas ces ressortissants de Taoudéni qui sont à Bamako, pensent que le conflit s'est assez enlisé déjà parce qu'après 10 ans, ils pensent que c'est le cas. C'est pourquoi lors de cette conférence, ils sont allés jusqu'à faire, ils ont fait beaucoup de recommandations, notamment de cesser le feu immédiat entre l'armée et les groupes armés. Ils ont demandé aux communautés de travailler à favoriser le vivre ensemble et ils sont allés jusqu'à demander aux gouvernants de négocier avec les chefs des groupes terroristes. L'objectif pour eux étant de mettre fin à ce conflit qui éprouve les Maliens et plus particulièrement les populations de la région de Taoudéni.
Oui, rapidement pour terminer, Mohamed, est-ce que à Bamako où vous vous trouvez, est-ce que dans la capitale, on ressent déjà les effets de cette guerre? Est-ce que cette guerre préoccupe vraiment les habitants de la capitale?
Cette guerre préoccupe tout le monde au Mali. Les morts, que ce soit au sein de l'armée ou d'autres groupes, appartiennent à des familles. Donc, que ce soit à Bamako ou ailleurs dans le pays, tous les Maliens sont préoccupés actuellement, en tout cas par ce qui se passe, par ce conflit-là qui se déroule. C'est d'ailleurs pourquoi ceux qui s'opposaient à la marche qui était prévue pour le 13 octobre prochain de la part de la CEMA, de l'imam Mahmoud Diko, l'argument qu'il mettait en avant, c'était que il était inconcevable d'organiser une marche, même si c'était une marche pacifique, au moment où l'armée est engagée dans une guerre au nord pour reconquérir l'intégrité territoriale du pays. C'est dire qu'aujourd'hui, à Bamako, un peu partout au Mali, les gens sont préoccupés par ce qui se passe, en tout cas dans le Grand Nord.
Merci beaucoup Mohamed Danyoko, correspondant de VOA Afrique à Bamako, au Mali. Pour une analyse, retrouvons Monsieur Soumaïla Hala. Il est enseignant-chercheur et coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Bonsoir Monsieur Soumaïla.
Bonsoir.
Alors, quels sont les vrais enjeux de cette opération lancée en direction de Kidal? On parle d'occuper les bases militaires que va quitter la MINUSMA. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière cette offensive?
Alors, pour comprendre les enjeux, il est essentiel de faire une lecture en filigrane et de poser un regard croisé à la fois sur le contexte de façon globale, les événements et éventuellement les acteurs. Dès l'instant que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger à un moment donné a été suspendu par les parties en termes de mise en œuvre, et dès l'instant que le retrait de la MINUSMA a été acté, il était évident que les parties en présence, c'est-à-dire l'État du Mali, les autorités actuelles et les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, entrerait en belligérance sur fond d'affirmation. Sur fond d'affirmation, pour Bamako, il aurait été inconcevable, et pour les autorités et pour l'opinion, qu'une autre entité que l'entité étatique, que les FAMA, occupent les camps qui sont en train d'être rétrocédés par la MINUSMA. Et pour les groupes armés signataires, au-delà de ces groupes armés, il y a d'autres acteurs qui sont sur le terrain, pour les groupes armés terroristes aussi. Il est inconcevable que Bamako mette pied dans ce qu'il considère depuis une dizaine d'années comme leur chasse gardée. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu d'affirmation et un enjeu qui va dans le sens de prendre le pas sur l'autre. Et pour Bamako, l'enjeu est plus poussé que pour les groupes armés signataires parce que l'opinion ne comprendrait pas que les FAMA n'occupent pas de façon systématique les camps qui seront progressivement libérés par la MINUSMA.
Alors, M. Soumaïla, Kidal se trouve à environ 300 km hein, de Gao, d'où est parti le convoi des FAMA. Plus d'une semaine après, ce convoi n'est toujours pas arrivé. Comment analysez-vous cette progression? Elle est lente? Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je ne dirais pas qu'elle est lente. Le temps, vous savez, le temps de l'armée, le temps des militaires, surtout en période de guerre, n'est pas le temps du citoyen lambda. La guerre obéit à des logiques de stratégie, la guerre obéit à des logiques de terrain. Et je pense que tout ça est savamment calculé. L'objectif final, c'est Kidal. Mais entre-temps, il y a Tessalit et Agelot qui doivent être rétrocédés. Et je pense que pour l'heure, c'est un jeu de chaises musicales. Les parties sont dans une logique de jeu de chaises musicales. Et c'est celui qui va dégainer le plus vite qui va s'asseoir. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'être dans une certaine lenteur en termes d'avancée, c'est stratégique. Et véritablement, l'objectif tout de suite, c'est pas Kidal. Kidal, c'est l'objectif final. L'objectif tout de suite, c'est de reprendre le contrôle du camp d'Agelog. C'est ensuite de reprendre le contrôle du camp de Tessalit. Et en novembre, le tour de Kidal va arriver. C'est à partir de là, je pense que la véritable marche vers Kidal va être entonnée par les FAMA.
Il s'agit donc, Soumaïla, là, d'une véritable guerre qui aura certainement des conséquences. Quelles seront les conséquences pour le Mali et peut-être pour toute la sous-région, le Sahel?
Les conséquences sont à apprécier doublement. D'une part, elles peuvent être positives et d'autre part, elles peuvent prendre des connotations négatives. Elles peuvent être positives en ce sens que aujourd'hui, les FAMA arrivent en tout cas à progresser vers des zones dans lesquelles l'armée n'avait pas mis pied depuis une dizaine d'années, vers des zones dans lesquelles l'État n'a pas été présent depuis une dizaine d'années, voire plus. Et en cela, on peut dire que les conséquences peuvent être positives si la logique arrive jusqu'au bout. Parce que la crise, la guerre obéit à des logiques qui ne sont pas forcément des logiques politiques, qui ne sont pas forcément des logiques qui vont dans le sens, on va dire, de telle ou telle partie. C'est le terrain qui commande, comme les militaires eux-mêmes aiment le dire, et les choses changent très rapidement. Donc, il y a une logique qui a été amorcée, et cette logique doit aller jusqu'au bout. Et si cette logique va jusqu'au bout, je pense que véritablement, ça peut être quelque chose de très positif dans les futures négociations. Maintenant, l'autre aspect, quand on fait de la prospective, et il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, l'autre aspect, c'est qu'il y ait, on va dire, une espèce de connexion. Ça a déjà commencé entre les forces hostiles à la présence de l'État, notamment les groupes signataires de l'accord et les groupes terroristes. C'est quelque chose qui a eu lieu dans les temps, c'est quelque chose qu'on soupçonne aujourd'hui. Et ce type d'alliance n'est pas de nature à favoriser le retour de l'administration dans les localités. Ce type d'alliance n'est pas de nature à favoriser le retour des projets de développement dans les localités aujourd'hui qui sont des localités en crise.
Des localités en crise, une crise qui pourrait affecter d'autres pays de la région. Malheureusement, le temps imparti à cette rubrique s'achève. Merci beaucoup, Soumaïla La. Vous êtes enseignant-chercheur, coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Merci d'avoir participé à cette émission de Focus Sahel. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
On reste au Mali pour parler de la réinsertion socio-économique des femmes déplacées à Koro, c'est dans le centre du pays. La ville, située dans la région de Badiangara, a accueilli un nombre important de personnes déplacées et parmi ces personnes déplacées figurent plusieurs femmes, dont Maimouna Goro. Cette veuve a choisi la restauration pour sa propre réinsertion socio-économique. Elle emploie d'autres femmes déplacées dans son restaurant de Koro. Regardons tout cela dans cette correspondance de Tidiani Ouidraogo.
Suite aux attaques des groupes armés, de nombreux habitants ont déserté leurs villages et hameaux pour se réfugier dans la ville de Koro.
À cause de l'insécurité, j'ai fui pour venir à Koro pendant que mon village de Nanguru était sous embargo par des groupes armés.
Les populations de la ville de Dinanguru étaient sous blocus des terroristes. Impossible d'y entrer ou d'en sortir. Une situation qui a affecté l'état de santé de Maimouna.
Avec l'embargo, j'ai fait 4 mois sans prendre le médicament, car ce n'était pas facile d'envoyer les médicaments ici. J'ai eu un convoi et je l'ai suivi pour venir à Koro ici.
Comme elle, beaucoup de femmes déplacées vivent depuis des années dans la ville de Koro, dans des conditions très difficiles. Certaines d'entre elles ont perdu leur mari suite aux attaques des groupes armés. Malgré cela, Maimouna n'est pas restée les bras croisés.
J'ai ouvert mon restaurant. Je vends du riz, du haricot, du thon aussi. Le marché est bon, surtout les jours de foire de Koro.
Dans le cadre de la réinsertion socio-économique et pour aider à la stabilité des foyers, des organisations humanitaires appuient les femmes déplacées dans la ville de Koro. Djenebou Ongoïba est une bénéficiaire.
Grâce à l'appui que j'ai bénéficié, je puis acheter un congélateur. Je produis de la glace et d'autres formes de placer et revendeurs de la glace profitent aussi.
Malgré l'amélioration de sa situation socio-économique, Maimouna n'oublie pas les bons moments passés avec son mari, décédé suite à l'embargo.
Mon mari était malade et nous étions sous embargo. Évacué à Sivari, il est décédé 2 semaines après son évacuation. Chaque fois que je suis seule, je n'arrête pas de penser à lui.
L'exemple de réussite de cette restauratrice inspire d'autres filles déplacées qui viennent apprendre le métier de la restauration. Pendant les jours de foire de Koro, le restaurant de Maimouna ne désemplit pas.
Chaque fois que je suis à Koro, je mange dans ce restaurant. Elle fait des plats délicieux.
Malgré tout, elle prie pour le retour de la paix et de la cohésion sociale pour que toutes les femmes puissent relancer les activités génératrices de revenus dans les centres du pays. Tidiani Ouidraogo pour VOA Afrique Koro.
À présent, le fait marquant de la semaine au Niger. Les opérations pour le retrait des soldats français présents dans le pays commencent ce mardi sous escorte de l'armée nigérienne. C'est ce qu'a indiqué lundi soir le régime militaire au pouvoir dans un communiqué lu à la télévision nationale Télé Sahel. Le communiqué ne précise pas la destination de ce convoi, mais on sait que le retrait des quelques 1400 soldats avait été exigé par les généraux nigériens après leur arrivée au pouvoir fin juillet, et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Pour en parler, nous sommes avec Seni Oumarou. Il est le rédacteur en chef de Canal 3, une station partenaire de VOA Afrique. Bonsoir Seni Oumarou.
Bonsoir, c'est Seni Amadou.
Seni Amadou plutôt, merci. Alors le retrait des soldats français doit débuter aujourd'hui. Est-ce que ce retrait a effectivement commencé? Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Voilà, ce retrait a effectivement commencé au niveau de la base 101 de l'aéroport, au niveau de la base 101, la base militaire 101, qui est collée à l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey, avec un premier convoi, en tout cas de militaires, dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux, qui étaient sur le tarmac de cet aéroport, prêts à embarquer pour quitter le Niger. Mais par voie terrestre, ce départ n'est pas encore acté, mais ce qui est sûr, qu'il y a 3 heures de cela, il y a un convoi qui est venu de Walam, qui est à 5 kilomètres de Niamey, où il y avait une partie justement de militaires français au Niger qui étaient stationnés là-bas. Eh bien, ce convoi avec des porte-chars est venu avec du matériel lourd et s'est introduit au niveau de la base 101 de Niamey, et tout laisse croire que dans quelques temps également, ce convoi qui doit prendre en principe la voie terrestre va également prendre la route pour en tout cas le départ, pour acter le départ des forces militaires françaises au Niger. C'est vrai, on ne sait pas quelle est la destination de ces militaires, mais tout laisse croire, puisqu'il y a un communiqué qui circule, qui demande justement sur un itinéraire qui part de Niamey jusqu'à l'est du pays, jusqu'à Difa, qui demande en tout cas de prendre les dispositions partout où ce convoi va passer pour que ce convoi puisse passer dans la sécurité, dans la sérénité. Tout laisse croire que pour beaucoup d'observateurs ici à Niamey, que ce convoi va finalement, pour un premier temps, échouer au niveau du Tchad.
Alors, vous l'avez dit, hein, Seni Amadou, il y avait des images qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux où les Africains, les Nigériens saluent cette souveraineté retrouvée du Niger. Mais sur place, comment est-ce que les Nigériens réagissent et que dit-on dans les médias?
Sur place, en tout cas en face de la base 101, donc où déjà Canal 3 avait tout à l'heure une équipe qui est revenue à 30 minutes de cela au niveau de cette base, eh bien, c'est toujours à la mobilisation, c'est un ouf de soulagement, puisque vous savez, ça fait pratiquement plus d'un mois, voire 2 mois que des Nigériens sont en train de camper au niveau de cette place pour exiger le départ des Français, et que les premières images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont vraiment amené un ouf de soulagement au niveau de cette population qui est fière d'avoir contribué à ce départ à travers sa mobilisation, son sursaut patriotique. Mais toujours est-il que cette population reste encore très vigilante par rapport à ce départ des troupes françaises, vu les conditions dans lesquelles ce départ est en train d'être effectué. Tout ce qu'il y a eu en prélude à ce départ, donc c'est un double sentiment au niveau de la population, de fierté de voir enfin acter le départ des troupes françaises, mais également de vigilance, puisque aujourd'hui, comme on le dit souvent, la nature a horreur du vide. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après ce départ, comment cette situation va évoluer dans les jours à venir par rapport au vide que les troupes françaises vont tout compte fait laisser, mais le sentiment de sa
le sentiment est donc voilà, mitigé comme vous l'avez dit. Merci beaucoup Séni Amadou. Voilà, on va continuer à suivre tout cela sur VOA Afrique et sur Canal 3, notre station partenaire. Merci, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Canal 3 au Niger. Voilà, on passe maintenant à la note positive de cette édition, c'est au Burkina Faso. C'est pour parler d'un festival qui fait la promotion de la peinture. Il est dénommé « Ma peinture, ma ville en peinture ». Le festival s'est tenu la semaine dernière dans la capitale burkinabé. Cette année, « Ma ville en peinture » a su se tenir sous le signe de la résilience face à l'insécurité, selon les promoteurs de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, nous sommes au quartier Padoua. Ici, des peintres d'un jour. Tout est peinture et on peint surtout ici. Même les enfants sont de la partie. Nous sommes au festival Ma Ville en Peinture.
C'est la première édition pour moi, mais le festival est à son, disons, sa troisième édition. Donc j'avais voulu venir et voir comment ça se présente, ce qui s'y passe. J'ai trouvé ça un peu amusant de peindre. Nous sommes des profanes, nous ne savons pas du tout comment ça se passe. Il y a le premier contexte qui permet aux différents participants de s'échapper un peu, d'oublier un peu leur réalité et de se retrouver aussi si possible.
Des toiles à perte de vue. De toutes les couleurs, de tous les goûts, évidemment, de toutes les bourses. Même Thomas Sankara est reproduit ici par ce peintre.
Ben, je trouve ce festival très enrichissant et je trouve depuis le début de ce festival, c'est un échange avec la population. L'art, c'est une forme d'expression, donc une forme de vie. Donc ça illustre bien la résilience et que voilà, le pays est en vie et effectivement, il y a peut-être une réalité politique, mais au final, à regarder autour de soi, ben, c'est la vie et tout. Et...
Des festivaliers se lance même dans des ventes aux enchères.
Donc ce tableau est mieux après avoir déboursé la maudite somme, la faramineuse somme de 75 000 francs CFA. Voilà, on va demander.
Pour la promotrice Adjaratou Ouedraogo, il fallait nécessairement organiser ce festival. Et ce, malgré le contexte difficile.
Quand je dis je suis peintre, il y a beaucoup qui me demandent ces peintures, bâtiments. Je me suis dit, bon, je pense que c'est à moi d'amener mon art vers la population, c'est à moi d'amener mon art vers le public. Donc j'ai commencé à m'installer dans les rues, dans les marchés, à me mettre à peindre. La situation qu'on vit, c'est pas évident. C'est compliqué, c'est... Comme on le dit, les gens se cherchent. Mais malgré ça, on s'est dit qu'on ne va pas baisser les bras. On a besoin de la paix pour... parce que là, on est un peu bloqué parce qu'on n'arrive pas à voyager. Il y a beaucoup de choses qui font que ça bloque. Donc le souhait, c'est vraiment d'avoir la paix.
Ma ville en peinture était à sa troisième édition et la promotrice compte décentraliser l'événement dans les autres localités du pays pour continuer à partager les messages de paix et de cohésion dans ce contexte d'insécurité marqué par le terrorisme. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. C'est avec ce reportage de Lamine Traoré que s'achève cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens tout particulièrement à saluer nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de la région. Mouamadou Oumfa à ce micro. Arzuma Compaoré était là. C'est lui qui a permis la diffusion de cette émission en direct sur Facebook. Et le Lionel Gaïma qui assurait la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook voaafrique.